on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, le RC Toulon parviendra-t-il en 2024 à retrouver le chemin des phases finales du top 14? C'est la grande question qui habite les supporters de Mayol depuis le début de saison. Ce club mythique qui rêve de retrouver le lustre de son passé. Ça commence à faire long pour les supporters toulonnais qui n'ont plus connu les joies de fin de saison trépidantes en top 14 depuis maintenant 6 ans. Alors est-ce pour cette année? On posera la question dans un instant à son directeur du rugby, Pierre Mignoni, qui affrontait ce week-end en championnat son papa dans le métier, Bernard Laporte, le symbole des années folles, des années luxe du RCT, le dernier entraîneur à avoir ramené le Brennus et la Coupe d'Europe dans la rade. C'était il y a une petite dizaine d'années avec comme adjoint justement Pierre Mignoni. Toulon qui alterne le très bon et le moins bon en championnat avec 7 victoires glanées pour 5 défaites encaissées, mais qui demeure invaincu à la maison tout au moins en championnat. Et pour évoquer le cas toulonnais et interroger Pierre Mignoni, la bande des poteaux sera constituée aujourd'hui notamment de Dominique Charvet, bourreau de Toulon. C'était il y a un siècle ou presque. Oui, bonjour mon siècle, Denis. Absolument. Moi, petit supporter de Toulon, j'étais monté à la capitale, j'assistais à ma première finale et tu avais planté cet essai assassin. C'était en 1989. Winnie et Julien Landry, évidemment, n'étaient pas nés.
Ah non.
Si, j'étais né, bien sûr. Moi, j'étais né. Oui, j'avais 6 ans déjà.
T'étais tout petit. Denis, cet essai a fait ta légende quand même. Est-ce qu'on t'en parle encore quand tu débarques à Mayol?
Ouais. Et oui, on en parle, bien sûr.
Oh non, pas, regarde, il est modeste.
Mais non, mais c'est pas ça, je dis ça parce que c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai fait que ça, quoi. Voilà, donc c'est
pas... celui-là est quand même particulièrement beau, Denis. Celui-là, il est quand même exceptionnel.
Il y a un truc qui te marque à vie, voilà, oui. Mais, ça, c'est... Ouais. Mais bon, c'est arrivé en finale aussi, donc le contexte faisait que, voilà, c'était à la télé... Ça a marqué des gens.
Ça a marqué des gens. On verra si ça a marqué Pierre, qui lui était né, évidemment, qui a suivi ce match. Julien Landry, Winnie Claret également à nos côtés, donc pour
salut
parler de Toulon. Parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, parce que Toulon veut retrouver sa place en haut de l'affiche. Les poteaux spécial RCT aujourd'hui.
De Denis Charvet avec les jambes d'une vélocité extraordinaire.
Grand moment de bonheur pour le public de Toulouse. Mais attention, attention à la réaction de Toulon. Car Toulon n'est pas une équipe à se laisser abattre.
Le pied puissant qui va passer au-dessus de la barre. Et Toulon est en route vers le doublé. Classen se dégage. C'est le titre de Toulon. La sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson, c'est un double-doublé.
Avec nos femmes et des chevelets dans la forme des grands côtés blancs.
Regardez, c'est celle de joie, c'est celle de joie, voilà qui est sortie de l'air de jeu, c'est fini. C'est terminé, c'est fini.
Marque Toulon.
Toulon est champion d'Europe. Toulon décroche son troisième titre de champion d'Europe.
Voilà quelques grands moments de l'histoire jamais tranquille du RCT, ce club pas comme les autres, que connaît comme sa poche Pierre Mignoni pour en avoir été supporter, puis joueur, puis entraîneur, puis manager, directeur du rugby. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous.
Bonjour à tous.
Salut Pierre. Pierre, ça fait quoi d'entendre Denis Charvet planter cet essai? 1989, t'étais pas très grand, t'avais quand même 12 ans, je crois, c'est ça?
Ouais, je m'en souviens bien. Très belle fin de passe, et c'est de 80 mètres. Je m'en souviens bien. Denis, je crois, jouait trois quarts centre, là, je crois.
Oui, avec Didier Codorniou. Oui.
Avec Didier Codorniou, et c'est un match que je me souviens très bien. Je devais aller à la finale ce jour-là, mais j'ai été opéré de l'appendicite, j'étais à l'hôpital. Voilà, je m'en souviens, avec un essai, je crois, à la première minute de l'Aïr. Serge Laïr, voilà.
Ouais, ça a marqué des générations de supporters toulonnais, évidemment.
Plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette équipe toulonnaise était très très forte. Très très fort, on a gagné parce que bon, après il faut un vainqueur, mais on l'a vu très très dur. Et c'est une époque où les Manu Diaz, Roux, il y avait une équipe magnifique et on a eu très très dur. Et jusqu'au bout, on a failli perdre ce match.
Ouais, c'était un grand moment. C'était enfin, il y a eu plusieurs grandes générations,
c'était
évidemment.
C'était le dernier match de Jérôme Gallion aussi.
Absolument. Dernier match de Jérôme Gallion, évidemment. En tant qu'ancien demi de mêlée, évidemment, il a marqué les esprits, Pierre, pour toi. Tu es né à Toulon, on le rappelle. Tu as toujours été supporter. Quand on est dans cette ville, on est forcément supporter. Et qu'on aime le rugby, on est forcément supporter ad vitam aeternam de ce club, Pierre.
Oui, bien sûr, parce que c'est quand même assez particulier ici. La ville vit au rythme du rugby. Donc, quand tu es jeune comme ça, moi, je suis allé très jeune. Mon père jouait au rugby, mon grand-père aussi. Donc, on est allé très, très jeune au Stade Mayol, voir les matchs. Voilà, c'est culturel, quoi. C'est culturel.
Ouais. Tu as bourlingué pas mal. Tu es parti, tu as été à Clermont comme joueur. Après, tu es revenu à Toulon. Mais on y revient toujours quelque part. Enfin, est-ce que toi, dans ton ambition, tu avais l'objectif de revenir à Toulon pour entraîner ce club un jour et pour en être le patron ? Ou ça fait comme ça ?
Non, moi, je ne suis pas trop calculateur dans le sens où, quand j'étais joueur, j'avais bien sûr envie de revenir jouer à Toulon. C'était Philippe Saint-André qui était revenu en 2009. Et je reviens en même temps que l'arrivée de Johnny Wilkinson, Felipe Contepomi, Juan Martin Fernandez Lobé, etc. On est tous arrivés en même temps. Il faut savoir quand même que Toulon, vous le savez, mais Toulon a connu un passage à vide avec la Pro D2, avec une économie très difficile. L'arrivée après de Morad a fait que le club a pu se reconstruire, mais c'était pas simple pour Toulon, parce que Toulon, c'est une agglomération importante, mais c'est pas une agglomération comme Paris ou Lyon ou Marseille qui est pas très loin. Donc c'était une économie quand même très difficile. Et voilà, on est tous revenus. Moi je suis revenu, puis d'autres sont arrivés et on a créé cette nouvelle histoire, cette nouvelle page du club qui était quand même importante.
Et est-ce que le fait d'avoir gagné le titre en tant qu'entraîneur avec Bernard, t'as plus ou moins, comment dire, enlevé les regrets que t'as le fait de pas l'avoir gagné en tant que joueur à Toulon, évidemment?
Oui, bien sûr, ça t'enlève un poids, comme on dit. Mais après, voilà, la carrière de joueur, tu sais, Denis, voilà, on a la carrière. Des fois, tu gagnes des finales, des fois, tu les perds au dernier moment. Moi, j'ai perdu 3 finales d'affilée avec Clermont. Ça a été, tu te doutes bien, une cicatrice difficile. Mais quand même, c'est des moments qu'il faut vivre. Je préfère les vivre que voir des phases finales à la télé. Voilà, donc après, te dire que c'était pas difficile, bien sûr que c'était très dur, très très dur. Donc le fait de gagner plus tard, même en tant qu'entraîneur, ça te soigne un petit peu quand même. Voilà.
Pierre, tu as été donc longtemps l'entraîneur du Loup après avoir donc quitté Toulon avec succès. Est-ce que c'est plus difficile d'être coach à Toulon qu'à Lyon, ou alors chaque club a ses difficultés? Mais voilà, quand on est Toulonnais, quand on revient à Toulon avec les attentes énormes des supporters de ce club, j'imagine que la pression doit être là quand même constamment du côté de la Rade.
Oui, alors chaque projet sont des projets différents. Lyon. Forcément, c'était différent qu'à Toulon, mais j'ai passé 7 ans où je me suis régalé là-bas. On a construit un club aujourd'hui qui est quand même un beau club, qui fait partie de l'élite française, et voilà, qui a gagné un titre il y a 2 ans. C'était important. Maintenant, Toulon, moi, la pression, je vais te dire, je suis né là-dedans, donc te dire que j'en ai absolument pas peur, quoi. Voilà, donc c'est un truc que je vis bien, si tu veux. C'est un truc qui me plaît. Je savais très bien... où je revenais, voilà. Donc tu as des responsabilités, tu as des devoirs. Pour moi, je suis ici, pas pour moi, j'ai déjà dit, même si c'est une grande fierté de diriger ce club aujourd'hui. Mais pour moi, je suis en mission. Je suis en mission de redonner un certain niveau que Toulon doit avoir aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Voilà.
Pierre, c'était juste. Ah. Oui, Pierre, t'étais engagé sur le long terme avec quoi? T'étais engagé. T'as parlé de Lyon, du projet que vous aviez construit. Quand Toulon est venu, c'était impossible pour toi de refuser de revenir à Toulon avec un rôle différent où tu avais du coup les pleins pouvoirs. C'était irrefusable comme proposition, Toulon.
Ben, c'est sûr que j'étais arrivé un petit peu au bout. Enfin, j'étais arrivé. J'avais un peu peur d'arriver au bout avec l'histoire de Lyon où ça faisait quand même 7 ans. Et je ne voulais pas me retrouver, j'aurais pu continuer à Lyon, parce que j'avais encore mon contrat, et ça se passait très bien avec mes joueurs et la direction. Mais voilà, après, c'est des choix très personnels, mais j'avais pas envie de me retrouver à faire l'année de trop ou les années de trop. Bon, il est arrivé cette opportunité, il y en avait d'autres. J'ai eu la chance d'avoir d'autres opportunités parce que
dans
c'est
l'équipe de France,
c'est difficile hein, d'avoir des. Oui, dans l'équipe de France, mais après, voilà, après c'est des choix et j'avais certainement au fond de moi très envie de revenir entraîner à Toulon, oui. Donc c'est pour ça que j'ai accepté.
Mais c'était pas le plus facile quand même, Pierre. Non, mais je veux dire que c'est quand même.
Alors,
tu me dis que t'as pas la pression, c'est vrai, t'as pas la pression, mais après. À Toulon, je pense qu'il faut plus de résultats qu'ailleurs, quand même. Tu le sais mieux que moi.
Oui, oui, oui. Tu vois, là on était troisième. On perd hier sur un match, une mi-temps en tout cas catastrophique. Et bon, si tu lis aujourd'hui les journaux, les réseaux sociaux, on est dernier, quoi. Ouais. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est, ici, les gens, voilà, aujourd'hui, on est lundi, ils sont malheureux. Les gens, ils sont malheureux. Donc, le coach, il est malheureux, il est déçu. Les joueurs aussi. Donc, il faut se bouger le cul, quoi. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre
oui, puis,
miracle, quoi.
Puis, en même temps, tu l'as connu avec Bernard, quand même. On oublie quand même que tu as passé beaucoup de temps, quoi, quand même, entraîneur de Toulon. Tu ne reviens pas comme ça, la fleur au fusil.
Oui, oui. Bah, je connais bien. Oui, bien sûr. J'ai joué. Moi j'ai joué tout jeune, j'ai commencé à 6 ans dans ce club,
ouais, toi,
jusqu'à 20 ans après je suis parti, comme vous avez dit, et puis je suis revenu joueur, et entraîneur, j'ai entraîné. Donc je connais très bien, et je connais très bien ce qu'attendent ici les gens, voilà, mais je le dis très, très sincèrement, j'ai pas de problème avec ça, je préfère ça, et c'est pour ça que je suis revenu. J'aime ce côté passionnel, ce côté à pression, ce côté, voilà, mais sinon, tu ne viens pas entraîner ici, ou encore moins jouer. Quoi. Parce que c'est pareil pour un recrutement de joueurs.
Oui, le
joueur,
tu as raison.
Il ne faut pas se tromper sur les gens que tu prends, parce que, ben oui, il y a des gens qui peuvent mal vivre, et c'est déjà arrivé, hein, qui n'ont fait qu'une saison ou deux, ils sont repartis en courant, quoi. Alors que c'est génial, quoi.
Justement, Pierre, si on prend l'ère dorée, peut-être la dernière ère dorée de Toulon à laquelle tu as participé, hein, avec notamment les 3 titres de champion d'Europe d'affilée, 2013, 2014, 2015. Il y a eu la finale aussi remportée en 2014 contre Castres. À ce moment-là, sur le terrain, parmi les titulaires, il y avait quand même Bakis Botha, il y avait Stephen Armitage, il y avait Johnny Wilkinson, Matt Guito, Brian Abana, Drew Mitchell, Delon Armitage à l'arrière. Tu parlais justement du recrutement, tu parlais des moyens que tu as aujourd'hui à Toulon. Est-ce que justement c'est possible, selon toi, de te hisser avec une armada que tu as aujourd'hui, avec de très bons joueurs, notamment des internationaux français? On pense évidemment à Charles Olivon, à Gabin Villière, à Melvin Jaminet, à Baptiste Serin, tout cela. Mais c'est pas la même armada quand même que le Toulon de l'époque Bougelal, de l'époque Laporte, que tu as bien connu.
Bien sûr. Mais ça ne peut plus être le cas.
Oui, c'est révolu.
Ça ne peut plus être le cas parce que c'est terminé. Enfin, moi, j'ai passé avec on a avec Jacques Bernard, avec Mourad, on a passé des moments extraordinaires avec ces joueurs. C'était incroyable. Mais même à cette époque-là, et comme à ton époque, Denis, et les époques d'avant, ça sera toujours pareil. Forcément, tu as la qualité des joueurs, au plus elle est forte, au plus tu as une chance de gagner un titre ou un championnat. Mais ce qu'il faut, c'est un état d'esprit. Il faut des joueurs qui jouent ensemble, qui aient un leadership très élevé dans l'équipe. Il faut des garçons qui soient moteurs. Il faut des coachs qui bien sûr, amènent la bonne direction. Voilà, je crois que tout ça, ça ne changera pas. Par contre, forcément, les joueurs changent. Et on n'a pas à se plaindre sur la qualité qu'on a aujourd'hui à Toulon.
Pierre, hier soir à Montpellier, tu retrouvais quelqu'un qui a été important dans ta carrière. On l'a déjà évoqué, il a été ton sélectionneur en équipe de France, puis ton head coach à Toulon, c'est lui qui t'a fait venir. Il t'a ensuite proposé d'intégrer le staff du 15 de France. Ça fait quoi de retrouver Bernard Laporte comme adversaire hier soir? Comment ça s'est passé avant le match entre vous deux? Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'amitié entre vous deux.
Bien sûr qu'il y a beaucoup d'amitié parce que je respecte énormément Bernard. Je sais que c'est réciproque, on a partagé des moments, bah, tu l'as dit, j'ai eu comme entraîneur, d'ailleurs c'était plus dur de l'avoir entraîneur que co-entraîneur. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir dans les deux côtés, mais c'est vrai que celui que j'ai pris le plus de plaisir, même si pour moi ça a été un entraîneur très important dans ma carrière, ça a été de bosser avec lui. Quoi. Mm. De bosser avec lui, ça a été une grande chance pour moi, ça a été beaucoup de bonheur sur les résultats qu'on a eus, mais pas que ça. Sur le côté humain, c'était voilà, on avait une confiance mutuelle, c'est-à-dire que Bernard, il me laissait faire complètement, et puis quand ça allait pas, on se disait des choses, mais ça a toujours été franc, quoi. Voilà, et moi, c'est ça que j'aime dans les relations. Et...
Justement, Pierre, toi qui le connais très très bien, qui connais ses qualités d'entraîneur, est-ce que tu penses qu'il n'a pas manqué il n'a pas manqué à Fabien Galthié sur les trois derniers mois de la Coupe du Monde, sur les deux, allez, trois derniers mois, sur la Coupe du Monde.
Alors, je ne connais pas les rapports qu'ils avaient, Fabien et lui, certainement proches, ça je sais, mais je veux dire, de cohabitation, de travail pour l'équipe, le lien que Bernard devait faire à un moment donné. Quand je dis le lien, c'est entre l'extra-sportif et le sportif. Je pense que Bernard, c'était un atout sur ça. Oui, c'est évident. Évident. Alors après, mettre tout ça dans l'échec...
Oui, on ne peut pas en faire l'histoire, mais...
Je ne peux pas en faire l'histoire, mais c'est évident que, et c'est tout à fait dommage qu'il n'ait pas participé à cette Coupe du Monde. Déjà ça. Voilà. De par la réussite qu'ils ont eue d'avoir organisé la Coupe du Monde. Voilà, Bernard était quand même assez, assez triste. Tu le sais très bien,
oui,
Denis.
Oui, oui, bien,
quand
sûr,
même...
bien sûr.
Voilà, c'est des moments... Je veux dire, Bernard, c'est sûr qu'il y a des gens qui... l'aime pas, bon, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, hein. c'est comme ça. Hein. C'est, voilà, c'est un personnage assez atypique, mais en tout cas, tu peux pas lui enlever que c'est un passionné, c'est quelqu'un qui donne tout, et il a tout donné pour l'équipe de France et notre pays, quoi. Voilà.
Tu sais que c'est un facilitateur, Pierre. Tu connais aussi très bien Patrice Collazo, pour l'avoir côtoyé aussi à Toulon. Alors, il est plus sur le terrain, Bernard, même si moi, pour y être souvent, il est souvent là à regarder de loin. Qu'est-ce qu'il apporte, à ton avis, à Patrice au quotidien, même s'il ne s'occupe plus forcément de l'entraînement et du terrain ?
C'est difficile pour moi de répondre à cette question, parce que, bon, déjà, moi, Patrice, je le connais, mais je n'ai pas travaillé avec lui en tant que coach. J'ai joué avec lui jeune, donc... Voilà, donc, et après, je ne connais pas du tout leur fonctionnement. Donc, je ne me permets pas de dire quoi que ce soit sur ça. Ce que je sais, c'est que Bernard, quand tu travailles avec lui, c'est le cas de Patrice, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Bernard, je l'ai dit, Bernard, il est quand même assez facilitateur, et il te laisse faire, à partir du moment où il a la confiance, il te laisse complètement les pleins pouvoirs, et il peut réajuster sur des choses... qui peuvent être parfois pas importantes, mais qui le sont au final, parce que ce sont des détails, et je pense qu'il a encore aujourd'hui la force, l'énergie de pouvoir donner des détails pour améliorer que ce soit le terrain ou l'extra-sportif.
Bernard Laporte qui a confié hier soir après la victoire Montpellier-Rennes que ça lui faisait jamais plaisir de voir Toulon perdre. Hein, on est Toulonnais un jour, Toulonnais toujours, même si on n'est plus dans le même camp. Ça a été ton cas également, Pierre, lorsque tu coachais le Loup et que tu affrontais Toulon. C'était des moments particuliers quand on affronte son club de cœur.
Oui, c'est particulier. C'est particulier pour Bernard parce que mais Bernard, il a une histoire particulière avec le club, mais il n'est pas né à Toulon, Bernard. Donc imaginez pour moi, c'est vrai qu'avec le Loup, quand on a joué la finale à Marseille, bon, c'était quelque chose, quoi. Mais moi, après, c'est des moments, ça dure quelques secondes, voilà.
Finale gagnée. Pour
une certaine émotion.
En plus.
Ouais, tu l'as gagné, mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu joues contre ton club de cœur. Donc, mais bon, après, pendant 80 minutes... Bon, tu joues pas. Quand t'es coach, tu as une énergie toute la semaine. Le jour du match, tu te concentres sur tes joueurs. Mais t'es pas joueur. Tu vois, je l'ai connu en tant que joueur. C'était peut-être un peu différent. Mais en tant qu'entraîneur, bon, après, ça passe. C'est pas... C'est plus important.
Alors, on va s'intéresser au Toulon actuel. Pierre, qui a donc été battu hier soir, dimanche, à Montpellier. C'est la cinquième défaite, je crois, en six déplacements. Même si vous êtes dans les clous pour la qualif, vous auriez pu, en cas de victoire d'ailleurs, vous hisser à la deuxième place du top 14. On sait que la qualif passera aussi par quelques succès loin de Mayol. Pierre, vous en êtes conscient, j'imagine. Hein.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais... Ce qu'on a commencé à trouver cette saison, c'est beaucoup plus de consistance. Par rapport, moi je parle déjà de la saison dernière, et là, malheureusement, d'ailleurs je dis une connerie, parce que hier on n'a pas du tout été consistant, mais quand même, on a eu des matchs à l'extérieur, les derniers matchs à l'extérieur, même, on va dire la plupart de la saison. Si j'enlève Perpignan, quand même on prend un point de bonus, et j'ai envie de dire le match de hier. Et je crois que malheureusement, hier, ça ne me donne pas raison à ce que je dis. Et ça donne raison à des titres que j'ai pu voir, que Toulon relance souvent les équipes un peu mal classées. Donc ça donne raison malheureusement à ça, et c'est ça qui m'énerve un peu, quoi.
Voilà. Justement, c'est ma question, Pierre. Moi, je vois juste Toulon. Pardon. D'ailleurs, je reviens sur la première mi-temps que tu joues à Toulouse, qui est extraordinaire, ouais. où je pense que vous avez fait un match incroyable, où il y avait une maîtrise totale face à des Toulousains complètement perturbés parce qu'ils n'attendaient pas à une telle opposition. Et un Toulon comme hier. Donc, comment t'expliques cette variation, justement, où on sent que Toulon peut être au-dessus de tout le monde? Et ils ont les moyens, je pense, la qualité des joueurs pour l'être, et puis cette inconstance, et puis ce non-jeu, j'ai envie de dire, même ce non-match d'hier.
Ouais, c'est ça, Denis, c'est ça que je travaille avec mon staff, qu'on essaye d'améliorer au quotidien. Ça passe par... c'est pas un coup de baguette magique, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences, beaucoup d'humilité aussi dans le travail, chose qu'on a manqué parfois. Et je le dis avec... sincérité, c'est que aujourd'hui c'est très très dur, c'est très très dur. Donc tu dois être humble dans le travail, humble dans les efforts que tu fais, humble pendant les matchs. Et je crois que des fois on manque un peu ou d'humilité ou d'efforts ou de voire même de leadership. Voilà. Donc tout ça c'est ce qu'on est en train de développer pour arrêter comment dire ces montagnes russes où ça nous pénalise pour jouer des phases finales ou tout simplement pour gagner, quoi.
Est-ce qu'on sent aussi une dépendance, selon toi, Pierre, à certains joueurs qui n'étaient pas là hier soir? On pense notamment à Charles Olivon qui a été ménagé. Vous avez souffert en touche. Mais aussi à Baptiste Serin qui est blessé. Et lui aussi qui est peut-être l'un de tes chefs d'orchestre. Alors qu'on a vu qu'il y avait de vraies volontés offensives de votre côté. Beaucoup de jeux à la main depuis votre camp. Mais beaucoup de manque de finition. C'était brouillon. Beaucoup de déchets. Est-ce que aujourd'hui, ton équipe, elle est dépendante de certaines individualités qui font partie de ces leaders qui ne sont pas là?
Alors, je pense que toutes les équipes ont quand même des joueurs importants, des leaders. Quand ils ne sont pas là, il faut redoubler d'efforts, il faut être beaucoup plus précis. Voilà, mais justement, c'est exactement ce que je ne veux pas. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on soit dépendant des uns ou des autres. Et je crois que sur ça, on a progressé. Je prends le match de Clermont, il nous manquait quand même des cadres, ce que vous appelez les cadres, et on a quand même gagné. Donc, je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, je dis qu'on a besoin de monter le leadership aussi des joueurs à côté, et de ne pas justement dire « Oh là là, lui, il ne joue pas, donc on ne va pas gagner ce match, ou on ne va pas être présent dans tel secteur ». Je crois que ça, c'est l'opposé que je cherche, en fait. Je cherche une équipe de 40 mecs et pas une équipe de 25 joueurs.
Mais justement, parce que quand on pense, par exemple, à ce que fait au Racing depuis qu'il est arrivé cette saison, Stuart Lancaster, où il assume un très gros turnover qui, de l'aveu même de ses joueurs, est parfois perturbant, mais il l'accepte parce qu'il l'a tout de suite dit. Et quelque part, on voit que pour l'instant, en tout cas, là, c'est gagnant, puisque le Racing fait une très bonne saison en top 14. Est-ce que c'est aussi une partie de la solution, c'est de responsabiliser un maximum de joueurs?
Non, on a vu ce qui s'était passé à Clermont, justement. Est-ce que tu avais fait tourner?
Oui, c'est ce que je dis. Franchement, c'est on essaye de. Alors, je regarde pas toujours le Racing, mais j'essaye de faire mon propre effectif, de faire tourner moi aussi, de mettre en concurrence tout le monde. Donc voilà, et de pas jouer avec. Il nous manque lui. J'essaye vraiment qu'on arrive à dépasser ça parce que. Je pense qu'on en a souffert, par exemple, l'an dernier. Je ne parle pas des saisons d'avant, je n'étais pas là. Mais je parle de la saison dernière, par exemple, on en a énormément souffert. Donc ça veut dire qu'il faut faire un certain turnover, comme vous dites. Il faut faire monter en compétence un certain nombre de jeunes joueurs aussi, ou d'autres, qui doivent prendre un petit peu le pouvoir.
Tu n'as pas eu peur, d'ailleurs, avec Esteban Abadi, tu sais très bien les relations que je peux avoir avec lui, puisque j'ai joué avec son papa, qui est arrivé de Brive en Pro D2, et tout d'un coup, il s'est imposé tout de suite, et notamment, ça fait partie de tes cadres aujourd'hui.
Oui, mais Esteban, il fait partie des joueurs qui portent l'équipe aujourd'hui. Et pourtant, il vient d'arriver, ça fait 6 mois qu'il est là.
Oui, tu as pris ce risque-là aussi. Enfin, je veux dire, t'as pas hésité oui. à le lancer dans le grand bain.
Non, non, pas du tout. Mais parce que déjà, bon, c'est un recrutement qu'on avait ciblé et qu'on voulait absolument. Pardon. Et je suis, on est vraiment très, très, très satisfait de son engagement. Et c'est un joueur qui est non seulement que vous connaissez, qui a des qualités au niveau rugby, des grosses qualités partout, pas que la touche. Mais par contre, il a un leadership qui, pour moi, est à développer et assez élevé, quoi. Donc, c'est très bien. Mais ça fait que 6 mois qu'il est là. Donc, il a changement de club, changement de coéquipier, changement d'environnement. Il faut aussi laisser le temps à tout ça de...
Non, mais il y en a d'autres. Il y a le Corvec, il y a d'autres jeunes pousses à qui il fait confiance. Et aussi, ça veut dire qu'ils arrivent à être bons, à être performants.
Oui, bien sûr, c'est le but. Hein. Il faut leur donner... cette confiance, mais comme je te dis, il faut aussi quand certains joueurs ne sont pas là, que d'autres prennent le relais et que ce leadership monte, tu vois, parce que sinon tu as l'impression que hier que je reprends le match d'hier, ça dure 40 minutes une mi-temps, mais si la mi-temps avait duré 80 minutes, je sais pas si on aurait changé quelque chose. Et ça c'est pas normal, c'est que là on manque de responsabilité et on attend la mi-temps pour se faire taper sur les doigts. C'est pas le but. Le but, c'est qu'ils soient responsables eux-mêmes sur le terrain.
Justement, à l'issue du match, hier, Pierre, t'es resté assez calme en conférence de presse. Bon, t'étais pas loin de craquer. T'as dit ne m'excitez pas. On t'a connu des fois, parfois, en conférence de presse un peu plus virulent. Hier soir, tu sentais qu'il fallait pas en rajouter ou c'est parce que tu as préféré garder tes reproches pour les joueurs dans le secret du vestiaire, et parfois on sait que tu peux t'exprimer devant les médias. Hier soir, t'en avais pas envie parce que t'en avais trop gros sur la patate.
Non, j'avais pas envie parce que j'en ai assez dit dans les vestiaires, donc ça suffit. Ouais. Voilà, après c'est bon. C'est pas en colère, la colère après elle passe, mais moi j'assume complètement aussi pourquoi on est absent pendant 40 minutes. Je me pose la question, ouais, dans la préparation, qu'est-ce qu'on a mal fait, c'est mon rôle. Je me rends ma question par rapport à ça. Quel outil on leur a pas donné, pourquoi on n'est pas engagé comme la deuxième mi-temps, par exemple, tout simplement. Hein. Il n'y a pas eu 10 écarts entre la première et la deuxième, il y a eu un peu plus d'engagement. Mais, chose qu'on est largement capable de faire.
Pierre, tu crois pas non plus aussi que c'est le fait que le top 14, le niveau du top 14, c'est extrêmement élevé aujourd'hui par rapport à une dizaine d'années?
Oui, tu as raison, c'est très dur. Le niveau est très dur par rapport à il y a 10 ans, mais comment dire, sur 11 mois de saison, parce qu'on parle de 11 mois de saison, hein, tu ne peux pas faire des matchs pleins. Je crois qu'il n'y a aucune équipe dans le top 14 qui arrive à faire des matchs pleins chaque week-end. Ce n'est pas possible. Donc, on ne va pas revenir sur les calendriers, sur tout ça. On fait avec. Par contre, quand tu cibles des moments dans une saison, et hier, ce n'est pas qu'on a ciblé absolument Montpellier, mais on se devait de faire un grand match pour essayer de gagner, pour continuer à monter dans le classement, tout simplement. On n'est pas non plus... Bon, c'est le 11e match d'affilée, c'est vrai, c'est dur. Mais tu ne peux pas être absent comme on l'a été sur l'engagement. Voilà, alors qu'on s'entraîne dur, j'ai pas grand-chose à leur reprocher, c'est ce que je leur ai dit, sans trahir le vestiaire. Mais après, voilà, putain, tout ça pour ça, c'est dur, quoi. Voilà. Ouais.
Pierre, l'impatience du public toulonnais, on la connaît. 6 ans sans vivre de phase finale, c'est une éternité. Ça, c'est presque un siècle pour les supporters de Mayol. Est-ce que tu sens l'urgence à retrouver le top 6 quand tu vois les supporters à Mayol quand ils viennent te parler? Vraiment, il y a une envie terrible d'y être dans ces phases finales. Hein.
Bien sûr, il y a une grosse attente. C'est normal, ça fait 6 ans, c'est un public qui a été souvent gâté par les résultats de la génération dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi les générations d'avant. Donc voilà, ici les gens, oui, sont parfois un peu impatients, mais je le comprends. Je le comprends, donc je partage. Il faut que cette année, on y arrive. J'y crois, hein, on va y arriver. Il faut être très positif, mais il faut aussi, quand ça ne va pas, se dire les choses pour... ça s'appelle l'exigence, pour mieux repartir, pour mieux, moins faire d'erreurs. et y arriver à nos objectifs.
Ça a été le cas d'ailleurs, il y a eu pas mal de tensions au mois de novembre, je crois, entre les supporters et le club. Tu es monté au créneau, tu es allé discuter avec les supporters et tu as un peu éteint l'incendie qui était en train de naître. C'est aussi le rôle d'un directeur du rugby à Toulon.
Moi, mon rôle, je ne suis pas là pour éteindre l'incendie ou quoi que ce soit. Je suis là pour échanger avec les gens et parler vrai. C'est tout. Donc, je sentais qu'ils avaient besoin de certaines réponses. D'ailleurs, des réponses qui n'étaient pas soldées depuis un moment. Donc, voilà, c'était important de se mettre face à face. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas fait. Par exemple, l'an dernier, on l'a fait. Mais ce n'était pas pareil. Là, il y a eu... Il y a eu vraiment des échanges vrais, comme dans un vestiaire entre les coachs et
mais qu'est-ce qu'ils te reprochaient? Qu'est-ce qu'ils te reprochaient au juste?
C'est pas tellement à Pierre qui reprochait.
Non, mais je veux dire, oui, non, mais pas à Pierre forcément. Mais
d'ailleurs, c'était dans le vestiaire de Mayol que tu as reçu les supporters, Pierre, il me semble.
Oui, c'était dans le vestiaire parce qu'au moins c'est symbolique, comme je l'aurais dit, c'est là que les choses se passent. Et quand on est dans un vestiaire, on doit se dire les choses vraies. Donc voilà, donc on s'est dit les choses vraies. Qu'est-ce qu'ils reprochaient? Une certaine communication du club, il reprochait certaines incompréhensions sur le recrutement ou des joueurs qui sont partis, aussi sur tout ce qui est autour de Mayol, les avant-matchs, les après-matchs, les abonnements. Donc, c'était assez diversifié. C'est des questions dans tous les clubs, quoi. Donc, il y a des questions que j'ai pu répondre, bien sûr, d'autres que j'ai pas pu. Mais en tout cas, aujourd'hui, on met des choses en place. Pas pour dire aux supporters on vous écoute et on fait ce que vous voulez, parce que c'est pas ça la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on a une institution et c'est l'institution qui décide. Ce sont pas les supporters ou Pierre Mignoni, c'est une institution qui est forte, qui est dirigée par quelqu'un qui donne de sa personne, qui donne aussi beaucoup d'argent, vous le savez, et qu'il faut respecter. Et voilà, donc c'est pas ni les clubs de supporters, ni les joueurs, ni Pierre Mignoni, le staff. Qu'on va décider de certaines choses. Voilà, que les choses soient claires.
Alors, parle-nous justement de Bernard Lemaître, le patron, le président de ce club, qui met beaucoup d'argent depuis qu'il est à la tête. C'est vrai qu'il est passionné de Toulon comme toi, il donne tout à ce club, mais le grand public, finalement, le connaît assez peu. Il est d'ailleurs un peu l'antithèse de Mourad Boudjelal, et forcément moins populaire que l'était à l'époque Mourad. Est-ce que c'est injuste pour toi?
Non. Oui, c'est injuste à partir du moment où à partir du moment où on manque un peu de respect et de recul par rapport à ce que fait le président. Et c'était pareil pour Mourad. Je l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé. Mourad a toujours, lui aussi, fait beaucoup de choses pour le club. Voilà, et il faut respecter absolument ce qu'il a fait, Mourad. Et en plus, je connais bien l'histoire parce que j'en ai fait un peu partie. Donc, il faut respecter ça. Et il faut respecter aussi l'époque Bernard Lemaître, qui est une autre époque, on le sait, avec l'évolution du rugby. Ça n'a rien à voir. Donc il faut respecter les gens qui passent beaucoup de temps, qui mettent énormément d'argent dans un club, l'argent assez personnel, quoi. C'est pas de l'argent qui vient... Voilà, c'est de l'argent personnel. Et je crois que ça se respecte. Alors ça donne pas le droit... ça donne pas le droit de pas dire les choses quand ça va pas. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut respecter l'homme, quoi. C'est pour moi la moindre des choses. Voilà.
Pierre, une grande partie de sa gloire, le RCT l'a tiré des exploits européens, avec ses 3 titres consécutifs dont parlait Winnie tout à l'heure, décrochés entre 2013 et 2015. L'Europe, ou plutôt la Champions Cup cette année, puisqu'il faut l'appeler comme ça désormais, que vous avez mal débuté avec 2 défaites en 2 matchs. Le week-end prochain, c'est le retour justement de cette compétition, avec un match face au Munster. Est-ce que tu as toujours espoir d'y bien figurer, ou c'est déjà râpé et tu es passé à autre chose? Est-ce que tu y crois encore?
Non, on y croit encore.
Ah ouais.
On y croit encore parce qu'on a pris 2 bonus. Et que effectivement, si on venait à gagner samedi contre le Munster, on peut se relancer à une qualification. Voilà. Donc non, c'est pas pour répondre à ta question concrètement. On va jouer le match à fond.
D'accord.
C'est pas fini.
Bon, tant mieux.
D'autant que la première défaite face à Exeter, elle était quand même serrée. Ouais. Bon, il y a eu une seconde mi-temps où clairement vous étiez absent du côté de Toulon, alors qu'on y croyait à la mi-temps. La défaite d'un point face à Exeter, j'imagine que pour se relancer, c'était pas forcément idéal. Peut-être que la fenêtre de top 14, elle a fait du bien aussi pour se remettre un peu la tête à l'endroit.
Ben, Oui, même alors si... sur le match de Paris, oui, mais pas sur le match de hier. Par contre, pour revenir sur les deux matchs, on perd les deux matchs à la fin.
Ouais.
Donc c'est terrible. On le perd à la dernière seconde et l'autre dans la dernière minute. Donc c'est quand même difficile. C'est un groupe qui n'a pas une maturité collective ensemble. Et ça se voit sur ces matchs de très haut niveau de Coupe d'Europe, parce que l'écart est... Enfin, le jeu est différent, on le sait, sur la Coupe d'Europe. Et là, on voit la dynamique collective, on voit l'expérience collective. Et on en manque, quoi. On en manque, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de gagner ces deux matchs aussi.
Oui, Pierre, on sait que sur ce mois de novembre, tu as aussi été convié, on va dire, à Marcoussis pour renégocier la nouvelle convention de l'équipe de France, où on sait que maintenant Fabien Galthié aura 34 joueurs à sa disposition en milieu de semaine, contrairement aux 42. Chacun a fait un pas vers l'autre, c'était important. C'était trop compliqué de redonner 42 joueurs à Fabien Galthié, mais c'était impossible aussi de tout lui enlever. Il fallait trouver un compromis qui satisfasse tout le monde.
Oui, c'est ça, il faut... Il fallait trouver un compromis, il fallait continuer à donner pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France, c'est très très important, et c'est la vitrine du rugby français. Mais comme on a dit aussi, on ne pouvait pas tout donner. Parce que pourquoi ? C'est pas pour dire on ne veut pas donner, c'est pas ça du tout. Je pense que tous les clubs, les présidents et les entraîneurs, depuis 4 ans, ont montré quand même une certaine solidarité. Et c'était important de le faire, même si on sait que le résultat n'est pas ce qu'on voulait tous. Mais quand même, il faut continuer, parce que le travail, ça va payer, c'est sûr. On a des super générations qui arrivent. Mais les clubs, on a des contraintes. Et Fabien le sait très bien. On a des contraintes qui sont très dures, hein, donc de calendrier, etc. Et on peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà.
Ah, parce qu'il faut quand même le noter, hein, juste pour ceux qui n'ont pas forcément en tête le calendrier à venir là, du RCT, mais donc il y a la réception de Munster samedi prochain. Après, vous allez à Glasgow, Pierre. Après, c'est la fin de la phase aller de top 14 le week-end d'après avec la réception de La Rochelle. Mm-hmm. Et puis on entame en même temps que le début du tournoi, ouais, à destination,
donc,
le 4 février, réception
partir
de l'UBB. Non, mais ouais. c'est vrai, ouais, que c'est dantesque. En France, ouais, on a un championnat et on a une Coupe d'Europe et on a beaucoup d'internationaux appelés sur les fenêtres internationales. Mm-hmm. Et tout ça,
il y aura un mondial des clubs très prochainement aussi, une compétition supplémentaire.
Oui, voilà, chaque chose en son temps. Mais effectivement, Pierre, j'imagine que
ça
c'est...
Ça fera 15 matchs d'affilée.
Voilà, c'est ça.
15 matchs d'affilée.
Ouais, ouais. Voilà, depuis la reprise du top 14 après la Coupe du Monde.
Mais ça, c'est pour tous les clubs. Hein.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc il n'y a pas de... On connaît la règle, mais c'est... Quand tu gères un club, voilà, et Fabien le sait très bien, et voilà, on a toutes ces contraintes-là à gérer. Donc... Il faut continuer à aider l'équipe de France et croyez-moi, dans l'ensemble, tout le monde à 100% et avait le même discours. Et voilà, il fallait trouver un compromis, comme vous dites.
Ouais, surtout quand on a porté le maillot de l'équipe de France, comme tu l'as fait. Et je pense que tous ceux qui l'ont porté ont évidemment à cœur d'aider ces Bleus à devenir enfin champions du monde. Et pourquoi pas un jour coacher cette équipe de France, Pierre. T'as pas complètement abandonné l'idée, même
jeune,
si ça c'est
46
pas...
46 ans, c'est jeune.
Ah, 46 ans, c'est un gamin, quoi.
La vie devant,
hein,
soi.
Pierre.
C'est gentil, merci.
Il est dans les temps.
Il est dans les temps.
Ben oui.
À quel âge il est devenu...
Fabien Galthié, il arrive à quel âge?
Pareil. Beaucoup plus vieux. Enfin,
ouais.
Et dans 4 ans, il faut. Pas beaucoup plus vieux, mais quoi, une cinquantaine.
Dans 4 ans, il aura 50 ans, hein, Pierre, c'est bon. Non.
Ouais, écoutez, on verra.
Quel est le meilleur joueur que tu as entraîné de toute ta carrière d'entraîneur? C'est bien Johnny, non?
Oui, c'est Johnny, oui. Oui, mais Johnny, on avait un rapport un peu particulier parce que j'ai eu la chance de jouer avec lui, contre lui et avec lui, et de l'entraîner après. Donc, ouais, je vais dire Johnny parce que Johnny, tout le monde le connaît dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il faisait, pardon, au quotidien. Et c'est vrai que, il fait partie des joueurs qui m'ont le plus impressionné. Ouais.
Et d'ailleurs, tu confies à nos confrères de Midi Olympique la semaine dernière que Johnny, qui s'est fait engueuler par Bernard ne comprenait pas. Il disait, comment il me parle? Je n'ai jamais parlé comme ça. Il était vraiment choqué quand il était
venu dire ça. Bernard, il parle à tout le monde pareil.
Oui, je sais, mais comment, c'est Johnny Wilkins.
Non, mais parce qu'on avait... Bernard, bon, vous le connaissez, voilà. Et c'est vrai que des fois, les joueurs comme ça qui arrivaient... les premiers discours de Bernard quand il était vraiment sur le terrain. Là, hein. Là, il était vraiment sur le terrain. Donc c'était au quotidien, il fallait se le fader au quotidien. Hein. donc au quotidien, des fois, il peut avoir comme moi, hein, comme nous tous, hein, on est tous pareils. Bon, ben des fois, tu pètes un câble et puis là, les joueurs, et Johnny en particulier, mais il dit, Pierre, c'est pas possible. Mais bon, après, il a compris et voilà, bon, ça a marché. Hein.
Ah oui, plutôt, ouais.
Roxane, qui produit l'émission, nous souffle que Fabien Galthié a effectivement pris les rênes du 15 de France à 50 ans tout pile. Donc, voilà, on est dans les temps.
On est plutôt pas mal. Dans les temps, Pierrot.
Petite question, quand même, juste parce qu'il y a un absent de taille et on se demande juste est-ce qu'il sera oui ou non remis sur pied, ouais, pour le Munster ou un peu plus tard, c'est Charles Olivon. Pierre, tu as été relativement flou quand même la semaine dernière pour nous dire qu'il était ménagé. Il a eu une alerte à la cuisse. Comment va-t-il aujourd'hui ?
Non, j'ai été flou parce que c'est pas très grave.
Ouais.
Je pense pas qu'il puisse jouer le Munster. Peut-être qu'il jouera à Glasgow le match d'après. Donc il sera opérationnel.
Pas de crainte pour les Bleus.
Non, normalement non. S'il n'y a pas de complications, ça devrait aller, quoi.
Merci Pierre Mignoni d'avoir consacré cette grosse demi-heure au poteau. C'est toujours un grand moment, un bon moment de passer du temps avec toi.
Et pour la bise à notre chef François Pesanti.
Ah oui,
notre ancien chef.
Ah, il est plus chef. Ah, à Toulon, ouais, il est pas plus chef. Bon, à Toulon, il a une toute petite plume. Ici, il avait beaucoup de plumes quand même.
À Toulon, il est sous-chef, tu veux dire.
Non, je ne sais pas, mais bon. Merci Pierre. À très bientôt.
Merci,
et allez Toulon, on compte sur vous. Et notamment le week-end prochain en Champions Cup. À bientôt. Pierre Mignoni, donc l'invité des poteaux. Merci Denis, merci Winnie et Julien. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va commencer à reparler de l'équipe de France la semaine prochaine parce qu'on aura la liste. On aura la liste pour
le 16 janvier, a priori.
Voilà, pour le premier match, on le rappelle, de l'équipe de France dans ce tournoi qui sera opposé à l'Irlande à
France-Irlande,
Marseille.
2 février à Marseille.
Il reste des places, Marseille. Non,
bah ouais, on t'en chauffe une, Christophe.
J'espère bien. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.